mercredi. Mercredi. Mamie, on est grosse mercredi.
Mercredi, mais c'est quoi?
C'est trop nul, mamie. Tu connais même pas la notion de l'armada.
Ben, explique-moi alors.
Bah, l'armada, c'est trop bien. C'est des gens qui font des spectacles de musique, de grands pour les enfants.
L'armada, oui, mais mercredi.
Une émission de grands pour les enfants.
Bonjour à tous et bienvenue sur Mercredi. Nous sommes la seconde 3 du lycée Sivigné situé à l'est de Rennes et nous sommes engagés dans un projet environnemental appelé Parole Gelée qui concerne l'impact du réchauffement climatique, notamment en Arctique. Nous avons donc eu la chance d'aller à ST des Sciences à Paris où nous avons interviewé l'explorateur Vincent Grison sur son expédition en Arctique. De plus, Xavier Boujard, médiateur scientifique et représentant de Greenlandia, est intervenu dans notre classe pour nous donner un autre point de vue de l'impact environnemental. Avec toute cette matière, plus les recherches que nous avons faites, on vous propose de partir en voyage avec nous et de découvrir les différents enjeux géopolitiques, économiques, environnementaux et océaniques qui concernent l'Arctique. Bonne écoute.
Merci Esteban, Raphaël, Yanis et Mehdi pour cette superbe introduction. Le réchauffement climatique a un impact important sur l'Arctique, ce qui a pour conséquence de créer de nouveaux enjeux autour de ce nouvel espace. Ces enjeux sont divers, parfois positifs et souvent négatifs, mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les enjeux géopolitiques autour de l'Arctique. Pour commencer, le réchauffement climatique fait que la banquise est de moins en moins fréquente dans l'année, ce qui permettrait d'ouvrir une nouvelle route très propice au commerce entre l'Asie et l'Europe, car plus économique et moins longue de 4500 km. Cette nouvelle route permettrait d'intensifier les échanges entre la Chine et l'Europe.
La fonte des glaces permet aussi l'exploitation de nouvelles ressources, pétrole, gaz naturel, mines à charbon. En effet, on estime qu'il y a environ 90 milliards de barils de pétrole dans le cercle polaire arctique. Et les nombreux pays frontaliers à l'Arctique, que vous connaissez sûrement, mais que je vais rappeler par précaution, la Russie, le Canada, les États-Unis, la Norvège et le Danemark, voudront récupérer une partie de ces richesses, ce qui causera sûrement des conflits territoriaux entre ces pays. Afin de savoir qui a le droit d'exploitation sur telle ou telle ressource à tel ou tel endroit, ils ont créé un conseil arctique afin de trouver des accords sur la répartition de ces ressources et de ces territoires. En parlant de ces ressources, on peut aisément imaginer l'ampleur de la pollution générée par la combustion de ces ressources, ce qui aura pour cause d'augmenter l'effet de serre, donc la fonte des glaces, donc l'élévation du niveau de la mer, et causer un impact géopolitique qui lui est imaginable. De nombreux pays frontaliers à l'océan pourront se retrouver sous l'eau et donc causer des vagues de migration vers l'Europe, par exemple. Mais là, je parle de conséquences mondiales, car les enjeux sur l'Arctique font pression sur le monde entier. Mais revenons à l'Arctique.
Et quand on dit Arctique, on veut plutôt parler des gens vivant là-bas et de comment ils vivent ces changements. Pour répondre à cela, nous avons interviewé Xavier Boujard, qui dans le cadre d'un projet scolaire est parti en Arctique avec une classe de 3e, afin de voir de ses propres yeux les impacts du réchauffement climatique sur les Inuits.
Le Danemark est un pays colonisateur, et vraiment le sentiment, et qui nous ont quasiment tous partagé, c'est vraiment le sentiment d'être colonisé. C'est-à-dire que c'est pas... Ils sont pas en guerre contre le Danemark, ils en ont pas les moyens d'ailleurs, mais ils ont vraiment le sentiment d'avoir perdu quelque chose et d'avoir perdu leur indépendance. Et donc, ils parlent des colonisateurs, et comme je le disais aussi tout à l'heure, il y a dans certains cas, ils ne parlent pas, ils refusent de parler le danois. Donc c'est quand même un sentiment de défiance et un sentiment... une envie d'être indépendant. Voilà. Pour l'instant, ils peuvent pas parce qu'ils sont dépendants. Une partie du budget du gouvernement groenlandais, 600 millions d'euros quand même, c'est le Danemark qui les donne chaque année. Et donc, pour trouver 600 millions, bah, il faut implanter des usines, par exemple, aller chercher du lithium, aller chercher des terres rares ou des choses comme ça, du pétrole éventuellement s'il y en a. Et pour l'instant, ils sont pas prêts à faire le pas. Donc voilà, c'est un sentiment un peu ambigu.
Ici, il nous explique que la plupart des Inuits ont énormément de difficultés avec les Norvégiens qu'ils considèrent comme des colonisateurs. On peut donc imaginer qu'avec les nombreux pays qui vont récupérer des zones économiques autour de leurs terres, les Inuits se sentent complètement colonisés. De plus, Xavier Boujard nous a appris que la fonte de la banquise impactait le mode de vie des Inuits, car ils se servent de la banquise pour se déplacer et se nourrir via la pêche de poissons. De plus, la fonte des glaces détruit les écosystèmes et donc les Inuits ont de moins en moins à manger.
Bref, le plus important à retenir, pour être au courant, c'est que les enjeux géopolitiques en Arctique, dus au réchauffement climatique, sont les nouvelles ressources extractibles avec la fonte des glaces, les nouvelles possibilités de routes maritimes et la complication du mode de vie des Inuits dû à tous ces changements. Nous repassons maintenant la main à Mehdi, Raphaël, Esteban et Yanis.
Vous avez entendu norvégien, mais nous parlons bel et bien des Danois. Pardon pour cette coquille. Merci donc Mathéo, Timothée et Virgile pour vos informations pertinentes sur ce thème. À présent, nos camarades qui se sont penchés sur les enjeux économiques vont vous présenter sous forme de micro-trottoir les ressources de l'Arctique. Bonne écoute.
Notre groupe s'est intéressé aux enjeux économiques que peut détenir l'Arctique. Nous avons interrogé des personnes dans les rues de Cesson-Sévigné en faisant un micro-trottoir. Nous leur avons donc posé la question suivante.
En 45 ans, la surface de la banquise a déjà été réduite en moyenne de 9% en hiver et de 48% en été. Suite à ça, les principales puissances mondiales peuvent exploiter certaines ressources et possibilités économiques. Connaissez-vous ces possibilités et qu'en pensez-vous ?
Non. C'est du pétrole, non ?
Non.
Non, je les connais pas du tout.
Je sais pas s'il y a du pétrole ou autre dans les fonds glaciers.
Alors les possibilités, je ne les connais pas.
Je sais pas du tout quel est son sujet là.
J'ai aucune idée.
Ils peuvent exploiter pour moi du pétrole. Hein.
Oui.
Et puis certainement du minerai. Hein. Je ne sais pas lequel exactement, mais voilà. Okay. Et du gaz aussi.
Ouais. Bref, je sais qu'il y a du pétrole, mais voilà.
Bah, en effet, oui, il y a des ressources dans l'Arctique qui sont liées par exemple à des minerais, du krill, des ressources en eau tout simplement, hein, qui doivent être protégées en effet par les grandes puissances.
Je trouve que c'est dommage, effectivement, mais ça c'est dû au réchauffement climatique. Et du coup, tout le monde en profite, les gros groupes, mais malheureusement, je pense qu'il faudrait qu'eux prennent conscience de ce réchauffement et éviter que ça se poursuive, parce que j'imagine que, en tout cas moi, j'imagine que mes petits-enfants verront de moins en moins de banquises. Donc je crois qu'il faut... Alors je pense que votre génération, elle est assez... Ouais, assez touché et puis concerné, ce qui était sans doute pas notre cas, nous en tout cas au début quand on était comme vous. Maintenant je pense qu'on l'est et on fait aussi attention.
Oui, je connais ces possibilités, c'est l'exploitation de gisements de gaz et de pétrole notamment. Non, je suis pas vraiment d'accord puisqu'effectivement ça contribue au réchauffement climatique.
J'aimerais que ce soit comme pour l'Antarctique, c'est-à-dire qu'il y ait une possibilité de que ce soit un bien commun. Hein, que ce soit qui ne puisse pas être exploité à l'usage uniquement de telle ou telle grande puissance.
Pour moi, de toute façon, ça profite uniquement aux gros pétroliers. Hein. Nous, le particulier, là-dessus, on verra rien. Nous, on fait que subir les conséquences de ça. Hein. Eux, ça leur profite, mais pas à nous.
Et je pense que ça va nuire aussi à la... Ça va pas améliorer la fonte des glaciers et tout ça. Donc après, les pétroliers, oui, développer tout ça. De toute façon, je pense que la France, elle a compris ce qui se passait, elle est en train de faire ce qu'il faut. Mais des gros pays comme les États-Unis, la Chine et tout ça, vous ne pourrez pas les empêcher. Ils n'ont pas encore intégré les problèmes et tout ça. Et puis eux, ce qui compte, c'est le marché.
Des hommes politiques qui ont essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exploitation de l'Arctique, notamment un type qui s'appelait Michel Rocard, mais pour vous c'est peut-être un peu loin, mais oui bien sûr, à partir du moment où vous autorisez ça, vous allez arriver à une destruction hein, de l'Arctique, c'est évident, hein. Mais les Russes sont déjà pas mal en train de le faire, quoi. Hein.
Si derrière il y a des investissements qui sont faits justement en lien pour la protection du coup de justement de la banquise, mais tant que ça reste dans la protection de l'environnement, oui pourquoi pas, ouais. Si on peut lier le tourisme à l'activité du coup de la banquise, oui pourquoi pas.
à part des ressources style pétrole, gaz, je vois pas ce qu'ils peuvent... À part ça, il n'y a pas grand-chose à prendre, sauf la détruire, quoi, la banquise.
Mais j'ignore, en fait, je sais pas en fait ce qu'il y a comme autre minerai. Je sais qu'il y a du pétrole, mais voilà.
Comme vous l'avez entendu, les réponses sont très vagues. En effet, une grande partie des personnes répondaient approximativement ou ne répondaient pas tout à fait aux questions posées. Ce qui nous a donc permis de nous rendre compte que l'Arctique est un territoire dont les médias ne parlent pas beaucoup.
Merci Basile, Lucas, Hugues et Gabriel pour nous avoir expliqué les enjeux économiques de l'Arctique. Maintenant, nous allons laisser la parole à Olivia, Océane, Antonia et Evan qui vont vous parler de la situation environnementale de l'Arctique. Bonne écoute.
Bonjour à tous, nous appelons
Antonia, Océane,
Evan et
Olivia.
Nous avons décidé de vous présenter une chronique pour vous parler des enjeux environnementaux en Arctique. Pour illustrer nos propos, nous nous sommes beaucoup renseignés, notamment sur le site du journal Le Monde ou encore sur le site européen Toute l'Europe. C'est avec fierté que nous allons maintenant vous présenter notre travail. Vous êtes prêts ? C'est parti !
L'Arctique est une zone d'importance planétaire. Les travaux de scientifiques sont en accord sur un point. La situation est de plus en plus inquiétante en Arctique. Les travaux du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, montrent que le réchauffement en Arctique est, depuis 2002, deux fois plus rapide qu'ailleurs dans le monde. Les conséquences sont la fonte de la banquise, donc la glace de mer qui se forme à la surface de l'océan, et de la calotte glaciaire, la glace qui se forme à la surface de la Terre. Elles perdent à la fois en épaisseur et en surface. Cela perturbe les courants marins et le taux de sel dans l'eau. La fonte de la calotte glaciaire au niveau du Groenland est irrémédiable à partir de 3 degrés de réchauffement et constitue donc une cause importante de la montée des eaux.
Si les effets du réchauffement climatique sont très forts dans les régions arctiques, c'est aussi parce que cette dernière est un immense amplificateur du réchauffement climatique. La neige réalise ce que l'on appelle l'effet albédo. Eh bien l'effet albédo, c'est comme quand en été, tu portes un t-shirt noir, tu vas avoir plus chaud. Alors que si tu portes un t-shirt blanc, eh bien la lumière va se réfléchir à la surface. Eh bien la neige fait exactement la même chose, l'effet albédo. Elle réfléchit 90% des rayons du soleil qui se reflètent à sa surface et en absorbe le reste, environ 10%. La neige fondante, elle, en réfléchit moins de 60% et l'océan moins de 15%. C'est parce que les couleurs claires, comme je l'ai dit, reflètent la lumière. Ainsi, en fondant, l'Arctique risque de perdre son rôle de climatisateur de la planète. Un autre risque très important de cette fonte des glaces, c'est la libération de gigantesques quantités de méthane qui sont contenues depuis des centaines de milliers d'années en grande quantité dans le sol de l'Arctique. On appelle cette zone le permafrost. Le méthane est un gaz à effet de serre. Il est moins présent dans l'atmosphère terrestre que le CO2, 23 fois plus dangereux pour l'environnement que ce dernier. Les études scientifiques indiquent que les océans seraient en mesure d'absorber la grande majorité du méthane libéré, mais la conséquence principale serait une forte augmentation de l'acidité de l'eau. Cette acidité serait aussi le développement d'espèces marines, comme le plancton ou les coraux, essentiels à une vie marine diverse.
Quant à la disparition du pergélisol, le constat est encore plus problématique. Selon les scientifiques, il ne suffirait que d'une petite augmentation d'un demi degré Celsius pour que le pergélisol fonde irrémédiablement.
Tous ces changements ne se ressentent pas de la même manière dans toutes les parties du monde. En Europe, les populations du nord de la Scandinavie, comme en Laponie, sont particulièrement touchées. Autrement dit, le réchauffement climatique est plus fort chez les ours polaires que chez les éléphants d'Asie.
La fonte des glaces complique beaucoup les déplacements des hommes et de leurs animaux. Les bouleversements dans la végétation rendent difficile l'accès à la nourriture des rennes, mais également les migrations et les conditions de reproduction de certains animaux, comme les phoques ou les ours polaires. La forte augmentation des températures risque d'entraîner de nombreuses catastrophes naturelles, comme des inondations, des tornades ou encore des incendies. Mais rassurez-vous, nous n'allons pas mourir tout de suite. Des solutions existent pour limiter l'impact de ce réchauffement. Nos camarades vous en diront plus dans la rubrique Transition.
Merci de nous avoir écoutés.
Tu as battu tu aurais ce bon à l'est tu qu'est-ce que ça me si va dans ma tout d'ailleurs sous ma anasungan o kaisipunuan na rin ilagalasir kasam na rilin ni artitis damo kafigangan ni panggap si maiwanak sinanatan na sistili sam natametuni ay yung ilang may kalalisan ni ay kinisik ko suto suit kalaliw na rapisugo tayo sunga iski mo kaka at sikepe ni siyan na rin yabi aldi tepe kaso natestan tupilan na bo tupilan na bo Kasunad na luganing aksaryak Sinanani Kasunad na lugun Kalasisut Si usayin na sinasuti Dama tutuwaru Dinoria sa kapu Esanun na okas na lungikani Ata si usasinasuni Sunana kumuni Sunana nunaku Kasunad si kikun Uway kung uyusu Takalala Yan lusto kukunak Suruhan for chen ay kaliw
Der ligger en meget bruse her Og sover midt på jorden
Ja, men han dansk eller grønne Når man sådan
Kasmino da ta ti suni sungi tutu da ti suni imara yutu tu vakasi tu dini sita bu di sigi sabu suli pigi sabu Kalasi da kanina rayuin na damat tayo Tutuisik ko kaktisuta, taktisuta Nunet sinutsasuta, iminuta mo Isilak si masuta, misilak si masuta Sungit tutut, sumipuro Dingir sarfit, singkalala Magigit, akigit, kamagit Sanagit na minar sinasuti Bisinasuti, basit silasuro Itinasuro, nagkaksinanan Kulani, amu, isigibatiro Takanilu, ilakakakarnani Kisya at saman, malugigani Tekusin nang ilam, sunak Suru, uwag mong kasang tupila buro
Tupila!
Mercredi. C'est aussi l'occasion de découvrir des musiques qu'on n'écoute pas d'habitude. Vous venez donc d'écouter la chanson Tupila. À présent, Léa, Lola, Elsa, Anna et Elena vont approfondir le sujet des sociétés en Antarctique, avec notamment les peuples Nenet et les Inuits, ainsi que les changements dus au réchauffement climatique auxquels ils ont dû faire face. On écoutera aussi une partie de notre échange avec Xavier Boujard.
Savez-vous ce que c'est que les Nénètes ? Les Nénètes sont un peuple nomade vivant dans l'Arctique sibérienne au nombre de 45 000. Et ils se consacrent à la domestication et à l'entretien des rennes qu'ils possèdent. Tout au long de l'année, ils migrent.
Mais de quoi se nourrissent-ils ?
Leur alimentation est principalement constituée de rennes crues, en bouillie ou grillées. Ils achètent des produits de première nécessité au village, comme du sucre, du sel, du beurre, des pâtes, du pain et du thé. Les peaux de rennes permettent de confectionner des vêtements et des chaussures chaudes.
Ça veut dire que les rennes sont hyper importants dans la vie de ce peuple ?
Oui, en effet, les rennes sont essentielles à la survie des nénètes. Ils vivent dans des tchoums, qui sont de grandes tentes ressemblant à des tipis et fabriquées à partir de grands poteaux et de peaux de rennes.
Vous êtes-vous déjà interrogé sur la signification du mot Inuit ?
Ce mot Inuit signifie « peuple » en Inuktitut, la langue Inuit. Ce peuple vit dans différentes régions de l'Arctique au nombre de 125 000, comme au Groenland, en Alaska, Canada et pour finir en Sibérie. Avant, les Inuits vivaient de manière traditionnelle. Les igloos de neige leur servaient d'habitat l'hiver et l'été, ils s'installaient dans des tentes en peau de caribou. Ils construisaient des kayaks en peau de phoque afin de pêcher et de se nourrir. Le passage de la vie traditionnelle à la vie moderne a été soudain, en une trentaine d'années. Les kayaks ont presque disparu au profit des barques à moteur, les maisons de bois remplaçaient les igloos de neige ou de terre
Ils se déplaçaient à l'aide de scooters de neige, de traîneaux à chiens et chassent grâce à des fusils et des harpons.
Sont-ils impactés par le réchauffement climatique ?
Oui, le réchauffement de l'Arctique et le recul de la banquise inquiètent la communauté scientifique pour leurs effets amplificateurs sur le changement climatique global. Il ne faut pas oublier que l'Arctique est un territoire habité par des hommes. Les Inuits, les Nénets, pour ne citer qu'eux, vivent sur les côtes de l'Arctique depuis plusieurs milliers d'années et la banquise est un élément essentiel de leur environnement et de leur vie quotidienne. La découverte de réserves de pétrole et de gaz dans les années 1970 a mené à la construction d'infrastructures sur leur territoire et principalement celui des Nénets. Cela a eu évidemment un impact sur les pâturages, les routes de migration qu'ils prennent tous les ans et la vie traditionnelle de ce groupe. Sa fonte risque de faire disparaître des pratiques et des savoirs uniques et menace leurs cultures qui sont fondamentales pour ces peuples. Le réchauffement climatique impacte aussi la quantité de lichen, une sorte de mousse qui est la nourriture principale des rennes. En 2014, environ 12 000 rennes sont morts affamés pour cette raison. Si ça continue, les Nénets perdraient leurs moyens de déplacement et de nourriture. Ils seraient donc condamnés à abandonner l'élevage nomade pour se sédentariser, c'est-à-dire rester toute l'année au même endroit et donc changer leur mode de vie et par conséquent leur culture. Ce serait désastreux pour eux.
Et les désastres du réchauffement climatique ne s'arrêtent malheureusement pas là. Le pergélisol.
Mais attends, c'est quoi le pergélisol ?
C'est un sol tout le temps gelé dans la région d'Arctique lors du dégivrage et qui provoque l'apparition d'énormes trous qui expulsent un gaz toxique dangereux pour les hommes et les animaux. Du fait, du point de vue même des Inuits qui sont attentifs au changement climatique et au réchauffement de la planète, constatent des feux de toundra et de plus en plus fréquents. Un réchauffement est un dérèglement des températures ainsi que d'autres événements inquiétants. Parmi ces conséquences, le corps des Inuits devient plus trapu, les mains et les pieds sont plus petits, le visage est plus rond et plus aplati que chez les peuples des régions tempérées. Ces changements leur permettent de s'adapter à leur environnement qui change au rythme du réchauffement climatique.
Pour mieux comprendre ces phénomènes qui, on le conçoit, peuvent rester abstraits, nous vous proposons d'écouter un cas concret, l'interview de Xavier Boujard, qui est allé rencontrer un de ces peuples en Arctique.
Bon alors bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Xavier Boujard. Pour me présenter rapidement, donc je suis responsable pédagogique du projet Greenlandia que je vais vous expliquer après. Et moi j'ai un parcours. À la base, j'ai une formation de scientifique, mais j'ai jamais fait de sciences, jamais été chercheur. J'ai toujours fait de la médiation scientifique, c'est-à-dire d'expliquer la science en général, plutôt sur les questions de biodiversité. Et depuis récemment. Je me suis plus spécialisé sur les questions d'océan, les questions de milieu polaire, qui sont mes deux principaux domaines. C'est le métier que je fais depuis presque 30 ans en fait. Hein. Voilà, alors le projet Greenlandia, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu. Moi, je vous le présente rapidement. Greenlandia, c'est une initiative climatique qui est basée sur un petit village de l'est du Groenland, sur lequel on fait des expéditions différentes. Il y a trois pôles. Il y a un pôle scientifique. On fait des expéditions scientifiques l'été, la plupart du temps. C'est plus facile. On documente pendant plusieurs années notre parcours là-bas et on fait aussi, il y a tout un volet pédagogique dont je suis le responsable. Donc, je vais vous parler de la vie au Groenland et je vais vous parler des conséquences qu'ont les changements climatiques sur ces populations-là. Et ben on est parti, je vous emmène en voyage. Alors, le nom du village, là, il est écrit là. Est-ce que quelqu'un veut s'amuser à le lire ? Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Itokotormi, ça veut dire la grande maison. Et donc, on a pu y aller. Et le but du jeu, c'était de terminer tout ce programme-là de 2 ans pour aller voir sur place qu'est-ce qui se passait avec le changement climatique. Il y avait un but. C'était pour aller rencontrer cette population et voir quelles étaient leurs difficultés par rapport au changement climatique. Et donc, pourquoi l'Arctique ? C'est une autre des raisons pour lesquelles on a travaillé sur l'Arctique. C'est qu'à cet endroit-là, l'anomalie de température, elle est bien supérieure à partout dans le monde. Et donc, les changements sont plus visibles. On est dans un endroit extrêmement isolé. C'est un des villages les plus isolés du monde. La population est de 350 habitants, donc c'est peu de monde. Grosso modo, c'est une centaine de maisons perdues au milieu de nulle part, au bord du fjord, un fjord là que vous voyez là, qui est le plus grand fjord du monde. Il fait 350 km de profondeur. Le plus grand bâtiment du village, c'est l'école. Dans cette école-là, il y a 65 élèves qui vont de la maternelle jusqu'à la troisième. Nous, on y est allé pour constater les effets du changement climatique. Et donc, c'est quand même important qu'on termine par ça. Et donc, qu'est-ce qu'on a pu voir? Je vais le résumer avec quelques petits dessins. La première chose, c'est ça. C'est que leur plus grand problème, par exemple, date depuis une dizaine d'années. Ils ont perdu un mois et demi de banquise. C'est-à-dire qu'ils ont un mois et demi où ils ne peuvent pas aller sur la banquise, alors qu'avant, ils y allaient. C'est-à-dire que c'est moins de temps de chasse. C'est un mois et demi de chasse en moins, en fait. Alors, ils chassent autrement. Ils vont chasser sur des bateaux ou des choses comme ça. Mais c'est une chasse qui est moins efficace. Et puis, ils vont moins loin. Donc, ça, c'est un problème pour eux. C'est aussi un problème pour l'ours blanc. Quand la banquise est déstructurée, le phoque, il a beaucoup plus de chances de s'en sortir face à un ours blanc. Donc ça, c'est un problème à la fois pour l'humain et pour l'ours. Et puis, c'est un changement aussi pour tous les organismes. Le phoque, quand même, les petits sont élevés sur la banquise. Donc, s'il y a moins de banquise, il y a moins de phoques. S'il y a moins de phoques, il y a moins d'ours. S'il y a moins d'ours et moins de phoques, les humains ont moins de nourriture. Donc ça, c'est vraiment le problème majeur et c'est un cercle vicieux parce que moins il y a de banquise, moins il y a de banquise. Alors, on a d'autres choses aussi qui impactent. C'est-à-dire que les glaciers reculent. C'est-à-dire qu'en fondant, les glaciers font tomber de plus en plus d'icebergs. Donc il y a de plus en plus d'icebergs. Donc il y a plus d'eau douce dans la mer. Et puis le glacier recule petit à petit. Quand la banquise fond, le niveau de l'eau n'augmente pas. Mais quand les icebergs fondent, ça fait augmenter le niveau de la mer. Puisque c'était des glaciers terrestres, ils étaient sur Terre, c'est de l'eau qu'on rajoute à la mer. Autre conséquence qu'il peut y avoir, c'est, alors ça on l'a pas beaucoup vu et honnêtement il n'y a pas énormément au Groenland parce qu'il n'y a pas beaucoup de terrain comme cela, mais ce qu'on appelle le permafrost, c'est des terres qui sont habituellement gelées en permanence, donc qui ne se dégèlent pas même pendant l'été. S'il fait plus chaud, petit à petit, ces terrains-là qui étaient gelés en permanence, ils dégèlent et ça devient une espèce de bouillasse. Et donc quand il y a des villages qui sont implantés là-dessus, ça c'est surtout en Sibérie, ils se retrouvent à flotter sur de la boue en fait, parce que ça fond. Et alors, en plus ça a un effet complètement délétère, ça dégage du méthane, qui est un gaz à effet de serre. Donc en fondant, ça augmente en plus l'effet de serre. Donc ça pose cet autre problème. Autre conséquence, c'est qu'il y a des migrations de toutes les espèces marines. Comme l'eau est plus chaude au fur et à mesure, c'est de l'eau chaude qui remonte. Et vous savez que chaque organisme, chaque animal est habitué à une température de référence. Et si on sort de sa gamme de température, il peut pas rester. Dans certains cas, ça change des trucs. D'un seul coup, il va y avoir plein de morues à un endroit où il n'y en avait pas, et donc ça développe la pêche. C'est ce qui se passe au Lofoten en Norvège. Voilà. Mais tout ça veut dire que l'écosystème, encore une fois, va changer et eux, ça va impacter tout leur mode de vie parce qu'ils sont pas habitués à ce mode de vie. C'est pas les nourritures qu'ils prennent d'habitude. Eux mangent très peu de poissons, donc voilà. Et par contre, ça va déstructurer complètement la chaîne alimentaire. J'espère que vous vous rendez compte, en fait, qu'avec le type de mode de vie qu'ils ont, en fait, le changement climatique pour eux, ça change des aspects vitaux de leur vie. Donc là, eux, c'est déjà maintenant, ça se voit maintenant, ça leur pose des problèmes logistiques. C'est pas insoluble pour eux, mais c'est déjà en cours.
C'est déjà l'heure de se quitter, mais rassurez-vous, on revient la semaine prochaine pour vous présenter la suite de nos recherches dans une deuxième émission consacrée à l'Arctique. On espère que vous avez appris plein de choses et passé un bon moment en notre compagnie. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut !